Bonjour, aujourd'hui à Rencontre Spirituelle, il y a tellement de gens dont on pourrait parler que il faudrait 3 heures, 4 heures, mais nous allons surtout parler de Sainte-Claire, évidemment Sainte-Claire d'Assise, peut-être la sainte la plus connue, surtout à cause de sa grande amitié, sa grande admiration pour Saint-François d'Assise, qui est le saint le plus connu peut-être de l'histoire. Et c'est aussi l'anniversaire du décès d'un homme que j'aime beaucoup, le cardinal John Henry Newman. Ce grand anglais, cet anglican devenu catholique, mais qui est demeuré très cher aux anglicans, qui ont même, quelques-uns d'entre eux à tout le moins, ont demandé au pape, il y a déjà longtemps, sous Pie XII, ils ont demandé qu'il soit canonisé, bien qu'il ait quitté leur église. Comme quoi les anglicans sont très près de nous, ils sont souvent des gens de très grand cœur et d'un grand esprit chrétien, d'un grand esprit écuménique. Eux qui sont à la cheville entre les protestants et les catholiques. C'est aussi la fête de Saint-Alexandre. Saint-Alexandre le charbonnier, un évêque, qui a vécu au IIIe siècle, qui était charbonnier, et que Saint-Grégoire le thaumaturge a choisi comme évêque parce que c'était un homme remarquablement instruit sous toute la poussière de charbon. Et les vêtements très pauvres qu'il portait, on pourra en parler peut-être. Et c'est aussi la fête de Sainte Suzanne, qui a été martyrisée en 295, Sainte Suzanne, et de plusieurs autres évêques, comme Saint Géry, qui est un évêque très intéressant, mais on ne peut pas en parler, on n'a pas le temps. Un évêque de Naples, un évêque d'Évreux, oui, d'Évreux, comme Monseigneur Gaillot d'Évreux, qui a tant fait parler de lui. Et puis une abbesse de Jouarre, une abbesse bénédictine, remarquable. Mais enfin, on ne peut pas parler de tout ce monde-là, c'est bien dommage. Nous allons tout d'abord commencer avec Sainte-Claire. Sainte-Claire qui demeure évidemment l'un des personnages les plus illustres de l'histoire de l'Église, cette femme cloîtrée, mais cette femme pleine d'amour. Il faut lire ses ouvrages. Il faut lire en particulier ce très beau petit livre. C'est un livre bleu foncé qui s'appelle simplement « Documents » et c'est de Sainte-Claire d'Assise. J'avais acheté ça auprès des Clarisses de Valleyfield. Vous savez qu'il y a plusieurs monastères de Clarisses qui suivent la règle de Sainte-Claire d'Assise au Québec. Et dans ce livre intitulé « Documents » de Sainte-Claire d'Assise, bien, on trouve sa biographie écrite par Thomas de Celano, tout près, pas longtemps après sa mort, tout de suite après sa mort. Il y a ses écrits, dont des lettres, et des choses extrêmement intéressantes. J'ai pris beaucoup de notes il y a quelques années quand j'avais lu ça. Mais c'est tellement merveilleux, elle revient souvent à la contemplation du Christ, la contemplation du Christ souffrant. Mais pas par masochisme ou quoi que ce soit, non, c'est par amour. C'est un immense amour qui habite Sainte-Claire d'Assise. Et puis, il y a le procès de canonisation, car elle a été canonisée très rapidement, en quelques années. Il y a de la bulle de canonisation, des textes des chroniqueurs, puis des textes législatifs, et des tables extrêmement bien faites à la fin. C'est un petit livre remarquable. Mais je laisse ça de côté car j'aurais besoin d'une semaine pour vous parler de mon amie Sainte-Claire, de notre amie Sainte-Claire, car je pense bien que tous nous l'aimons beaucoup. Elle est née à Assise, dans cet endroit presque unique au monde, un des plus beaux endroits du monde, Assise, en Italie. Que c'est beau cette région. Elle est née en 1194. Elle est morte à 60 ans. En 1253, on dit dans les vieux textes qu'elle est née d'une famille noble. C'est assez exact dans un sens. C'est que nous savons que sa famille, qui était les Offreduccio, était une famille bourgeoise qui avait des revenus, comme celle d'ailleurs de Saint François d'Assise, qu'elle a tant estimé, peut-être même qu'elle a aimé à 13 ans. Mais je crois que son amour, elle l'a sublimé. Par la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit-Saint, Dieu qui voulait deux, autre chose que le mariage. Non pas que le mariage ne soit pas une bonne chose, mais Dieu a ses vues qui sont différentes des nôtres parfois. Sa mère avait fait le pèlerinage à Jérusalem. Elle avait fait le pèlerinage à Jérusalem en dépit des difficultés imposées par les guerres avec les occupants de Jérusalem, qui étaient des Arabes, qui étaient montés du pays lointain. Et ce qu'on appelle souvent les croisades, j'aime pas le mot de croix mêlé à ces guerres pénibles, qui sont tellement un mauvais souvenir, de part et d'autre. Et alors, sa mère avait fait le pèlerinage à Jérusalem, peu avant de la mettre au monde. On sait très peu de choses, finalement, de son enfance. De son père encore moins, on sait qu'il est probablement mort très jeune. Et à 15 ans, Claire était déjà une belle fille, aux cheveux blonds, et sa famille a résolu de la marier. Mais dans Assise, où elle habitait depuis longtemps déjà, Claire avait été touchée par les exemples, les leçons de François, fils de Pietro Bernardone. S'était brusquement converti en 1208. Il avait renoncé au monde et aux richesses. Il avait même renoncé à son père. Parce que son père était un marchand puissant, marchand de tissus. Il était devenu le petit pauvre d'Assise, tout jeune encore. Il voulait imiter le Christ, qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Et il avait restauré les chapelles Saint-Damien, Saint-Pierre et Sainte-Marie-des-Anges, auprès de laquelle il s'était établi, on le sait, n'est-ce pas, avec quelques compagnons. Chacun a vu le beau film Frère Soleil, puis on a lu sa vie, et on aime tous Saint-François d'Assise. Et le dimanche des Rameaux, 18 mars 1212, elle avait 17-18 ans, Claire a été, a choisi de mettre à exécution son dessein de quitter le monde pour la pauvreté. Et le matin, elle a assisté à la grand-messe, à la cathédrale, célébrée par l'évêque, évidemment. Cet évêque qui avait entouré de son manteau François, qui s'était mis flambant nu, dans un geste très étrange, afin de montrer qu'il méprisait les vêtements magnifiques en très beau tissu que son père lui avait fait faire, et qu'il préférait se dénuder pour le Christ. Se mettre à nu, quoi. C'est une scène assez étrange. Certains disent qu'elle est légendaire. Moi, je serais porté à croire qu'elle est vraie. Car Saint François était un audacieux. Et on voit que Claire aussi est une petite audacieuse. Elle a du cran. Et à la grand-messe, à la cathédrale, elle n'a pas eu la force d'aller recevoir son rameau. Parce qu'elle tremblait un peu, évidemment, elle hésitait, elle était jeune. Et l'évêque, qui était instruit de la chose et qui était plein de compassion pour elle, comme pour François, c'était un évêque plein d'esprit évangélique, eh bien, lui a porté son rameau. Et personne n'a soupçonné ce qui se passait vraiment, parce que l'évêque savait qu'elle voulait entrer au monastère, bien jeune, malgré que son père ne le voulait pas. Et le soir, à la lumière des torches, elle s'est rendue avec sa compagne, avec une compagne, à Sainte-Marie-des-Anges, auprès de cette église vivaient, n'est-ce pas, les premiers franciscains. Alors, elle s'est rendue là, elle a fait vœu de chasteté et de pauvreté tout de suite. Elle a retiré tous ses vêtements riches, elle a endossé une bure très simple, puis elle a présenté ses cheveux blonds à Saint-François pour qu'il les coupe. Puis elle lui a juré obéissance. Ça peut sembler étrange pour des jeunes qui disent, mon Dieu, se faire couper les cheveux. Mais oui, je me souviens fort bien, enfin je m'excuse de parler de moi, mais en 1944, je suis entré comme ça dans un monastère, et quand j'ai pris l'habit quelques jours plus tard, le 15 octobre, 1944, mais on m'a tondu complètement, j'avais l'air d'un prisonnier. Et c'était comme ça, c'était la tonsure, ça vient en partie de l'ancienne Égypte, où les prêtres égyptiens, pour signifier leur consécration au dieu de l'Égypte, se faisait raser complètement. Et on voit ça d'ailleurs sur les vieilles fresques qui nous viennent de l'ancienne Égypte ou dans des films où on nous montre des gens qui ont des têtes à la Yul Brynner. Et alors donc, elle a juré obéissance à François, et François l'a conduite ensuite chez les bénédictines du monastère Saint-Paul, qui était pas loin. Et là, il lui a fallu chercher un abri plus sûr contre sa famille. Alors, on l'a conduite au monastère Sant'Angelo di Panzo, un autre monastère bénédictin, qui était bénédictin à cette époque, mais qui est passé sous la règle de Sainte-Claire avec le temps. Vous savez qu'il y a des monastères qui changent de règle. Ici, au Québec, on a eu des monastères du Précieux Sang, deux, qui sont passés à la règle bénédictine il y a déjà de nombreuses années. En particulier, l'un à Mont-Laurier. Et alors donc, à Sant'Angelo, Claire a été rejointe par sa jeune sœur Agnès, et tous les efforts de sa famille ont resté sans résultat. Elle était jeune, mais elle était solide. Il y en a qui disent qu'elle avait 15 ans, mais pas du tout. Elle avait environ 18 ans, selon les documents les plus sûrs. Et puis, François a coupé aussi les cheveux d'Agnès. C'est-à-dire qu'Agnès avait 15 ans, mais Claire avait 18 ans, n'est-ce pas? Mais Claire, Agnès avait seulement 15 ans. Et c'est assez surprenant qu'une petite fille de 15 ans puisse à cette époque, en somme, presque désobéir à ses parents en entrant dans un monastère. Mais il paraît que c'était possible. En entrant et en rejoignant sa sœur avec d'autres jeunes filles, eh bien, l'ordre qu'on appelle souvent le second ordre, vous savez qu'il y a le tiers ordre, le troisième ordre, c'est les laïcs qui suivent l'esprit franciscain. Le second ordre cérémonial franciscaine que l'on retrouve et que l'on appelle les Clarisse, en anglais, on les appelle les poor clares, les pauvres dames, les pauvres clarisses, les pauvres, même, c'est les pauvres clairs au fond, parce que clair, ça veut dire clair, c'est le nom de clair, n'est-ce pas? Quand le calme est revenu, François a pu, avec l'agrément de l'évêque, là, les établir dans un couvent à elle, à Saint-Damien. C'est très beau, Saint-Damien, il faut voir ça aussi. Ça existe toujours, c'est un pauvre couvent. Mais de nombreuses sœurs les ont rejointes. Et pour les régir, mais François leur a donné une règle qu'on appelle une formula vitae, formule de vie si vous voulez. Mais en 1215, les décisions du Concile de Latran qui interdisaient les nouvelles règles, on voulait pas que les règles, les congrégations se multiplient à cette époque, on voulait qu'il n'y en ait que quelques-unes et qu'on puisse vraiment vivre de la même façon d'un monastère à l'autre. Pas trop de variations. Alors, ils ont été obligés d'opter pour la règle de Saint-Benoît, mais ils l'ont corrigée puis ils l'ont rendue plus sévère. Puis vers 1219, donc 4 ans plus tard, le cardinal Ugolin, qui est très important chez les franciscains, c'est un grand ami des franciscains, ce cardinal, comme vous voyez, les franciscains qui vivaient dans une espèce d'esprit de révolte, entre guillemets, douce, calme et pieuse révolte contre le luxe de certains cardinaux de certains monastères, même de l'ordre de Cluny, il y a toujours eu des aspects de richesse ici et là. Et c'est pas nécessairement terrible que quand on va à l'intérieur de ces monastères. Je suis déjà allé moi à l'intérieur de monastères qui avaient l'air riches, mais les moines vivaient pauvrement. Alors, il faut être très prudent dans nos jugements. Donc, le cardinal Ugolin, grand ami des franciscains, a substitué une règle plus modérée. Il trouvait qu'ils étaient un peu trop sévères. Et le principe de pauvreté absolue que voulaient Claire et François ont été passés sous silence, mais Claire a obtenu finalement du pape ce qu'on appelle le privilegium paupertatis, c'est-à-dire le privilège de la pauvreté. Alors, ils ont pu continuer à la pratiquer, puis, d'ailleurs, on trouve dans la vie de Saint François d'Assise, du fameux Jorgens, un converti danois, là, que personne, jamais, ne réalise plus pleinement l'idéal conçu par un homme qu'une femme dont cet homme s'est conquis le cœur. Voyez-vous, François avait conquis le cœur de Claire. Oui, l'amour peut exister, un amour humain peut, un véritable amour qui aurait pu mener au mariage. Ne nous en scandalisons pas, c'est possible, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible. Et cet amour est sublimé, transformé. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais à l'église Saint-Germain pour la messe durant les vacances, à la fin des vacances, avant d'entrer au collège, où il y a bien longtemps, au début des années 40, et j'ai vu sortir de l'église Saint-Germain un couple, tout le monde savait à Outremont qu'ils s'aimaient d'un immense amour. Ils étaient toujours ensemble. Ils allaient à la messe tous les jours ensemble. On les voyait en prière à l'église ensemble. Et lui, eh bien, à la sortie de l'église, je l'ai vu qu'il l'a serré contre lui délicatement, avec beaucoup de respect. Et on a entendu dire que le jour même, il était entré chez les Pères Blancs, et elle entrait chez les Sœurs Blanches. Elle est demeurée chez les Sœurs Blanches et lui a bifurqué vers les Chartreux de la Val-Sainte en Suisse. Vous direz que ça n'a pas de sens. Et pourquoi pas? Si l'appel de Dieu est plus fort que le mariage, ça existe. C'est très rare, mais ça existe. Peu avant de mourir, elle a obtenu d'Innocent IV, notre Claire d'Assise, de suivre la règle de Saint François pour les frères mineurs, pour les franciscains. Et puis, ça a été transposé à l'usage de ce qu'on appelle les pauvres dames. François s'occupait discrètement des sœurs, et quand tout a été organisé, elle a vécu vraiment avec beaucoup de foi sa vie de religieuse. Et quand Saint François est mort en 1226, elle est devenue dépositaire de son esprit. Il y a eu de nombreuses vocations extraordinaires. En 1227, l'année après la mort de Saint François, le gouvernement spirituel de toutes ces moniales qui devenaient de plus en plus nombreuses a été confié aux franciscains. Il est vrai qu'en 1250, on a rapporté cette mesure-là. Des monastères, dont celui d'Assise, ont obtenu de continuer de bénéficier de la juridiction des franciscains, mais les meilleures leçons pour les clarisses venaient quand même de leur mère Claire, qui avait laissé des écrits dont je vous ai parlé tout à l'heure, des exhortations formidables. Elle avait surtout laissé sa vie écrite par Thomas de Celano. Ce sont des exemples extraordinaires de vie sainte. Elle s'est sentie malade en 1252. Depuis le 25 juillet, elle ne prenait aucune nourriture. Puis le 11 août, après avoir béni ses filles longuement, elle les a exhortées. Puis elle a dit, « Va en paix car tu as suivi le bon chemin. Va confiante car ton Créateur t'a sanctifié, t'a gardé sans cesse. T'a aimé avec toute la tendresse d'une mère pour son enfant. » Elle a ajouté en terminant, avant de mourir, « Ô Dieu, sois béni de m'avoir créé. » Je crois que c'est un des plus beaux, des plus belles paroles qu'on peut prononcer quand on s'adresse à Dieu. « Ô Dieu, sois béni de m'avoir créé. » C'est tellement magnifique. Elle a dit à une de ses filles qui l'interrogeait, « Je parle à mon âme, dont Dieu est maintenant si près. Ne vois-tu pas, ô ma fille, le roi de gloire que moi je vois? » Une autre sœur a vu la Sainte Vierge s'approcher avec une troupe de vierges, prendre et emporter l'âme au ciel. Le corps a été transporté dans Assise, où les Clarisses ont eu l'autorisation, évidemment, de suivre son corps. La cause a été introduite l'année même, en 6 jours, par l'évêque de Spolète, qui a envoyé le dossier au pape Innocent IV, mais ce fut le pape suivant, Alexandre IV, le cardinal Reynaldo, qui a proclamé la sainteté de Claire, 2 ans plus tard. Ce fut lui aussi qui a demandé à Thomas de Celano le récit de la vie de Sainte-Claire, et l'auteur de la vie de Saint-François, qu'il avait déjà écrite, s'est servi pour cela des actes du procès de canonisation qui venaient d'être faits. Et puis, ces actes de canonisation, d'ailleurs, ont été perdus par après. On les a retrouvés au XVIe siècle, c'est assez curieux. Enfin, on possède des lettres de Claire à la bienheureuse Agnès de Prague, ou de Bohême, si vous voulez, et une autre à Ermentrude. Ce sont des lettres magnifiques qu'il faut lire. Donc aujourd'hui, la fête de Sainte-Claire, à invoquer, à aimer et à bénir. Un petit détail sur Sainte-Claire en terminant. On peut lire dans la collection Livres de vie aux éditions du Seuil. Sainte-Claire d'Assise, par Marie de Saint-Damien, une Clarisse évidemment. Une des plus grandes spécialistes sur Sainte-Claire est une moniale du couvent Sainte-Claire, justement, de Valleyfield, non loin de Montréal, à une quarantaine de kilomètres. Et cette moniale est la sœur même de la directrice du journal Le Devoir. Eh oui, assez étonnant, hein? Elle donne cette sœur, cette moniale, elle l'a donnée à l'occasion du grand centenaire de la mort de Sainte-Claire, des conférences un peu partout à travers le monde, surtout du centenaire de sa naissance, il y a 2 ans, en 93. Et vous savez que j'ajoute qu'en France, il y a plus de 50 monastères de Clarisses qui sont répartis en plus de 40 département. Nous passons maintenant au cardinal Newman, John Henry Newman, fils d'un banquier de Londres, qui descendait d'une famille juive établie en Hollande, est né en 1801. Il a reçu de sa mère, qui était une petite fille de Huguenots français, son nom d'ailleurs était Fourdrinier. Des Huguenots sont des protestants, n'est-ce pas? Qui avait été persécuté en France par les catholiques et par le pouvoir politique, et qui s'était réfugié en Angleterre. Donc sa mère était petite-fille d'un de ces protestants français. Elle a reçu une éducation religieuse qui était imprégnée, par conséquent, de calvinisme, donc de protestantisme français. Et c'est une forme de christianisme exigeant et fervent. Hein. C'est les calvinistes en France, sont renommés pour leur ferveur. Et vers l'âge de 15 ans, il a eu une sorte de crise intérieure. Il a cru avoir le sentiment de sa conversion. Et la lecture des théologiens de l'école qu'on appelle Evangelical chez les Anglicans, ce sont la portion de l'Église anglicane qui serait plus proche des protestants. Il faut dire que l'Église anglicane est high church, haute église, très catholique, souvent plus catholique même que bien des catholiques, et la low church ou evangelical qui est plus près des protestants. Bon, c'est grosso modo, là, je vous explique ça brièvement, il faudrait apporter bien des nuances à tout ça, hein. Alors, ayant reçu donc une formation plutôt evangelical ou évangélique, si on veut, mais anglicane, ben, il était plein de prévention contre le catholicisme. Il croyait fermement que le pape était l'antéchrist. C'était comme ça à l'époque. Hein? L'antéchrist prédit par le prophète Daniel, par saint Paul et par saint Jean. Et telle était sa passion des colliers protestants qu'il avait effacé dans un livre les épithètes qui accompagnaient le mot pape comme vicaire du Christ, vicarius Christi, il avait effacé ça. Il les avait remplacés par des qualifications injurieuses que j'aime autant pas vous dire. Et cependant, par une contradiction tout à fait mystérieuse, là, dès l'âge de 15 ans, une pensée fort étrange s'est présentée à son esprit contre le protestantisme. C'est que Dieu voulait qu'ils vivent dans le célibat. Et les protestants n'acceptent pas facilement le célibat. Très peu de protestants. Mais depuis quelques années, il y a des diaconesses chez les luthériens. Mais de toute façon, d'une façon générale, les protestants ne sont pas d'accord avec la vie religieuse. Et alors, il était un écolier précoce. Il a 16 ans à peine. Quand, en décembre 1816, il est admis au fameux Trinity College à Oxford. C'est Trinity College ou Trinity College à Oxford, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un travailleur ardent, curieux de toutes les connaissances. Il étudie l'histoire, les langues orientales. Il mène de front la poésie et les mathématiques. Il joue du violon et à 18 ans, il s'oriente vers la vie ecclésiastique. Puis en avril 1822, il concourt pour le poste, alors le plus envié, le plus disputé à Oxford, soit celui de Fellow d'Oriel College. Et il est reçu, et ce succès l'a mis en contact avec nombre d'hommes éminents d'Oxford, notamment avec le fameux Pusey. Il a 23 ans en 1824 quand il reçoit l'ordre sacerdotal anglican. Il devient prêtre anglican, c'est ce qu'on dit. On ne dit pas pasteur, mais dans son cas, prêtre. Parce qu'ils se considèrent comme des catholiques non romains, des catholiques anglicans. Je ne veux pas scandaliser personne en utilisant le mot catholique. Il y a une dame qui m'a déjà téléphoné pour me dire que je n'avais pas le droit. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Je sais bien. Bon. Et alors donc, il a reçu l'ordination avec des sentiments de grande piété. Et aussitôt ordonné, Newman a été nommé curate, ou curé si vous voulez, de Saint-Clément, l'une des paroisses d'Oxford. C'était un poste très important. Un pape plus considérable fut sa nomination en 1826 à l'un des quatre postes de tutor, de responsable, si on veut, dans le collège d'Oriel. Une position qui lui donnait la direction intellectuelle et, dans une certaine mesure, la direction morale des jeunes élèves de 15-16 ans. Et en 28, un terrain plus large s'est ouvert à lui, son zèle apostolique, et tout en conservant ses fonctions de tutor, il a été appelé au vicariat de Sainte-Marie, l'église de l'université. Il a pris possession de cette chaire, c'était la sienne pendant 15 années, et c'est là qu'il a réveillé l'Angleterre. Et maintenant, de John Henry Newman, qui est mort un 11 août. Alors, le futur cardinal Newman, car il deviendra catholique, est prêtre anglican à Oxford, et on dit, dans une petite biographie de lui, il a pris possession de la chaire de l'église de l'université d'Oxford, Saint Mary, là, et qui a été la sienne pendant 15 ans, et on dit, il commença à y faire entendre la parole d'un accent si nouveau et si pénétrant qu'il a réveillé la conscience endormie de l'Angleterre. C'est donc important qu'un prêtre, ici et là, ait le courage de dire les grandes choses. Alors une évolution s'est dessinée dans son esprit et ses convictions religieuses. Là. Ses amis, qui sont les Froude, les Robert Wilberforce, puis le Pusey, qui était très important, hein. C'est pas n'importe qui ce Pusey, hein, qui est mort en 1882, c'était un théologien anglais qui a jamais quitté l'anglicanisme, qui a fondé ce qu'on appelle le Puseyisme. C'est une doctrine qu'il a fondée qui soutient le dogme de la transsubstantiation comme étant extrêmement important. Il a toujours tendu vers le catholicisme ici. Il a toujours apprécié le catholicisme. Il a voulu que l'anglicanisme se fasse de plus en plus catholique, sans passer lui-même à l'Église catholique. Pusey. P-U-S-E-Y. Dans la maison de Pusey, qui était marié, Newman allait très très souvent là. Et tout ça contribuait au mouvement de ses idées. On a pu citer un fait assez curieux d'ailleurs. Amené à s'occuper de l'installation de son jeune frère Francis à Oxford, Newman plaçait dans sa chambre une gravure représentant la Vierge. Et aux plaintes de son frère, il a répondu en s'élevant vivement contre les protestants qui oubliaient cette parole sacrée, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », c'est dans l'évangile de Saint-Luc. Et au fond, Newman et ses amis, Froude et Pusey, comprenaient que l'Église d'Angleterre ne pourrait se soutenir et se sauver que par une contre-réforme. Alors, c'est assez intéressant de voir que c'est par la Vierge que ça passe tout à coup, hein, et par un retour à ce texte, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Et ce fut l'origine de ce qu'on a appelé le mouvement d'Oxford, une sorte d'orientation vers un christianisme plus pur, vers ce qu'on appelle un romanisme, et vers la doctrine catholique. C'est un mouvement dont l'origine date de 1833. Ça a eu pour centre Newman lui-même. C'est un mouvement qui a abouti à la conversion de Newman et d'un certain nombre de ses amis, de ses disciples, mais ils ne sont pas tous passés à l'Église catholique. Ils sont demeurés des anglicans au tempérament noble, convaincu et il ne faut pas les blâmer. Évitons tout jugement sur quiconque ne serait pas de notre propre Église. Les gens des autres Églises sont souvent aussi sincères que nous, et parfois bien plus sincères que moi-même. Et avant de devenir catholique, eh bien, l'action de Newman a été, tout en restant anglicane, profondément chrétienne. Ses sermons à Sainte-Marie en témoignent. Il prêchait tous les dimanches. C'était absolument différent de nos grands sermonnaires qu'on a aujourd'hui. Et on a pu dire de lui qu'il était aussi loin de l'orateur que pouvait l'être d'un grand prédicateur. Pas d'action. Suivant l'usage de la prédication anglaise à cette époque, il lit ses sermons. Ses yeux demeurent fixés sur son manuscrit. Pas une fois il ne regarde l'auditoire. C'est étrange. Ses bras sont immobiles, ses mains sont cachées. Tout au plus, par instant, remue-t-il un peu la tête. On a dit, mais ça doit être ennuyant comme la pluie. Mais non, surprenant. C'est la conviction. Il commence d'une voix tranquille, nette. Il continue sans inflexion et chaque paragraphe est débité rapidement, suivi d'une courte pause, comme pour laisser le temps de la méditer. Pas un éclat d'intonation, pas une effusion de sensibilité, pas un cri de passion. Parfois, il s'interrompt quelques minutes, durant lesquelles l'auditoire demeure en suspens, imaginez pendant quelques minutes, silence, puis d'un accent plus grave, plus solennel, il prononce une ou deux phrases, où il met comme une force concentrée, et au dire d'un témoin, les sons qu'on entend en ces instants sortir de ses lèvres semblent quelque chose de plus que sa propre voix. C'est comme le colloque de son âme avec Dieu. Aussi bien son sermon n'est rien d'autre. À la différence des sermonneurs français qui se plaisent à développer les idées générales et abstraites, qu'il s'agisse du dogme ou de la morale, Newman s'attache plus volontiers aux sujets concrets et très limités. C'est la conscience de ses auditeurs qu'il examine à la lumière de la sienne. Il n'est pas romancier, psychologue, oui, mais jamais un psychologue n'a pénétré davantage tous les dessous de la conscience humaine. Toutes les complexités, les subtilités, les contradictions, les faiblesses. Sa perspicacité s'exerce tellement là sur les esprits des gens, les états de vie, les genres de tentations que les gens ont, que les gens sont fascinés. Newman a ce don extraordinaire que chaque auditeur peut croire qu'il s'adresse spécialement à lui. Je crois, a dit un témoin, qu'aucun jeune homme n'a pu entendre prêcher sans imaginer qu'un indiscret lui avait livré le secret de sa propre histoire et que le sermon était pour lui seul. On imagine le succès d'une prédication de ce genre. Afin qu'elle s'étendît d'ailleurs à toute l'Angleterre, il fallut que Newman se décide à publier ses sermons. Et le premier volume est paru en mars 1834 et d'autres l'ont suivi de près. La manière de sentir en matière religieuse, là, en a été changé partout en Angleterre. C'était extraordinaire. Il faut d'ailleurs lire, publié aux éditions du Seuil il y a de nombreuses années, 12 sermons sur le Christ par le cardinal Newman. Oh, ça date déjà d'un bon bout de temps. J'ai ça dans ma bibliothèque depuis les années 40. Voyez-vous, c'est publié en 43. Mais on le trouve sans doute en bibliothèque. Newman a employé en même temps d'autres moyens d'action sur l'opinion publique, c'est les fameux tracts, Tracts of the Times, extrêmement importants pour l'évolution de l'Église anglicane et de l'Église catholique. Le premier est paru le 9 septembre 1833. C'est un écrit de 3 pages, sans signature. Il débute ainsi. À mes frères dans le sacré ministère, les prêtres et les diacres de l'Église du Christ en Angleterre, ordonné pour cela par le Saint-Esprit et l'imposition des mains. On croira entendre un catholique. L'idée maîtresse de ce tract, c'est la doctrine de la succession apostolique et donc de l'indépendance de l'Église vis-à-vis de l'État. Il veut séparer l'Église anglicane du gouvernement anglais. D'autres tracts ont suivi, coup sur coup, en septembre et dans les mois suivants. Le second s'attaque à une loi irlandaise. Il lui reproche d'avoir été pris sans l'avis de l'Église. Le troisième dénonce les altérations, comme on dit, dans la liturgie, les services funèbres. Le quatrième revient sur la succession apostolique. Le cinquième expose la constitution de l'Église du Christ et celle de la branche de cette Église établie en Angleterre. Alors, il analyse de plus en plus, il va comme ça de plus en plus. Et il s'intéresse au problème des pères de l'Église, des théologiens anglicans du XVIIe siècle, etc. Il fouille. L'esprit qui régnait là dans les tracts, ça pouvait pas manquer de provoquer des protestations. On a lancé contre Newman et ses amis l'accusation d'être des Romains. On les a accusés d'être romanistes, d'un mouvement qui mène l'Église anglicane vers Rome, vers le catholicisme. Alors, on a publié même une prétendue lettre pastorale où le pape félicitait les auteurs du mouvement d'Oxford. Et là, le fameux Pusey a protesté à son tour contre ce genre de polémique, car il était un anglican admirable. Et c'était sûrement de la meilleure foi du monde que les Tractarians le se jugeaient calomnié. Quand on les a accusés de tendre vers Rome, et eux, ils voulaient pas devenir catholiques, ils voulaient simplement être plus fidèles à la vraie grande tradition. C'était leur point de vue. Mais il y avait une pointe de romanisme qui perçait malgré eux, et Newman a eu beau faire paraître un volume sur la Via Media, la voie du milieu, et contre le romanisme, certains tracts paraissaient suspects de papisme, comme on dit. Les protestants se sont irrités, puis l'évêque d'Oxford a cru devoir lancer un blâme contre les tracts. Et là, le mouvement d'Oxford n'a fait que s'accroître à cause de toute l'opposition. Et parmi les nouveaux amis ou les disciples de Newman, il faut compter toutes sortes de gens, dont le futur père Faber, qui s'est converti, et le futur cardinal Henry Edward Manning, qui s'est converti aussi. C'était des prêtres anglicans autrefois, ça. Puis le fameux William George Ward aussi. Et c'est Ward qui s'est écrié un jour en réponse à qui l'interrogeait sur ses croyances. Eh bien, mon credo, sachez-le, sera extrêmement simple. Credo in Newmanum. Je crois en Newman. C'est une façon humoristique et très anglaise de répondre. En somme, l'ascendant que Newman exerçait sur tous ses esprits d'élite inclinait le chef du mouvement d'Oxford à l'humilité. Il en est venu à douter de lui-même et à douter de sa cause. L'Église anglicane détachée de Rome est-elle bien la véritable Église du Christ? Telle est la question qu'il a fini par se poser. Et cette crise de conscience dont il se garde de rien faire paraître ne devait se dénouer que 5 ou 6 ans plus tard. Et comme pour se rassurer et s'assurer, qui comme lui pouvait être saisi par le doute, il a publié le fameux tract 90, où il cherche à établir que les 39 articles de religion qui avaient été approuvés et promulgués par la reine Élisabeth I en 1571, au moment de la fondation finale de l'Église anglicane, ou le détachement de cette portion de l'Église catholique, il dit que ces articles peuvent être entendus dans un sens catholique. Et ce tract a déchaîné une véritable tempête. Or, les chefs de collège, l'évêque d'Oxford, d'autres évêques encore, l'ont censuré vivement. Ward, lui, son ami, au contraire, et les autres amis, y ont trouvé une raison de se tourner davantage vers Rome. Et Pusey, je vous rappelle, celui qui est demeuré anglican, a essayé vainement d'enrayer ce mouvement. Et Newman, sollicité par Pusey de désavouer Ward, se trouve dans un tel embarras qu'il prend le parti d'abandonner sa paroisse de Sainte Mary de d'Oxford, mais de se retirer à Littlemore, un petit hameau de sa paroisse situé à 2000 d'Oxford. De Littlemore est devenu pour les Tractarians, là, les Tractariens, ceux qui aimaient les tracts. C'était un lieu de retraite où Newman a organisé une sorte de communauté, presque un monastère, quelques cellules étroites, une petite chapelle, ce fut tout. Et là, en face de sa conscience, il écrivait d'ailleurs « Dieu et moi seul », eh bien ce chef du mouvement d'Oxford, John Henry Newman, essayer d'oublier tout le bruit du dehors. Et si ébranlé que fut sa foi dans l'anglicanisme, il a continué de détourner ses disciples d'aller à l'église romaine, à l'église catholique de Rome. Mais le courant fut plus fort que lui. Il a vu Lockhart, Darl Gairns, Ward, etc., qui ont abjuré l'anglicanisme l'un après l'autre. Et enfin, ses doutes et ses hésitations ont cessé. Le 8 octobre 1845, il fait appeler le père Dominique, un religieux passionniste italien d'origine, qui était installé en Angleterre depuis 1841. Il s'est agenouillé, s'est confessé à lui. Il reçoit le baptême sous condition. Vous savez qu'on donne le baptême sous condition dans des cas comme ça, parce qu'on respecte profondément le baptême des Anglicans. Qui aurait idée de... Puis même le baptême des protestants. Nous respectons le baptême des protestants. Nous croyons qu'ils sont vraiment baptisés. Ce sont de véritables chrétiens. Alors donc, le baptême sous condition. Et le 10, il assiste à la messe de ce passionniste. Il communie. Et ainsi se consomme sans bruit cette conversion qui devait avoir un si grand retentissement en Angleterre. Il y a un contemporain qui dit « Il est impossible de décrire l'effet énorme produit dans le monde académique et clérical. Je puis dire dans toute l'Angleterre, puis dans le monde entier, par ce fait qu'un seul homme a changé de religion. On n'avait jamais vu ça. Quelques-uns de ses amis l'imitent. Faber, par exemple, le fameux père Faber ou Faber, très illustre. D'autres refusent de le suivre jusqu'au bout, notamment Pusey, qui s'obstinera dans sa vie immédiate et qui formera une espèce de petite branche de l'anglicanisme qu'on appelle le Puseyisme. Quelle extraordinaire conversion! Quel drame pour l'anglicanisme, par contre! Et ça me fait de la peine des fois parce que j'ai des amis anglicans que j'aime beaucoup. Et je me dis que ça a dû tellement les blesser, tout ça. Ça fait toujours du chagrin, hein, quand on croit à quelque chose et qu'on voit le personnage le plus illustre et le plus remarquable, au point que de nombreux anglicans le considèrent comme un saint. Newman, catholique, à peine converti, publie son essai sur le développement de la doctrine chrétienne qui, composé pendant les dernières années de sa crise religieuse, a apporté à l'Église catholique un nouveau système d'apologétique, le plus efficace qu'elle a pu opposer à certaines attaques modernes. Mais qu'est-ce qu'il allait devenir, lui? Wiseman, l'évêque de Londres, lui conseille de se rendre à Rome, où il arrive le 28 octobre 1846. Que ça devait être terrible d'arriver à Rome pour un catholique anglican. Je ne veux pas avoir l'air d'être anticatholique et pro-anglican, mais réfléchissons calmement. Vous savez, les anglicans, quand on visite d'ailleurs la cathédrale Christ Church, là, entre la baie et Eton, êtes-vous déjà entré? C'est si beau à l'intérieur. Et les offices sont si magnifiques. Tout ça est célébré avec une grande qualité. Et à Rome, avec le tempérament méditerranéen des Italiens, il y avait là des excès insensés. Il y avait tellement de dentelles et de bébelles et de choses abominables. Vous savez, des parasols, il faut lire et voir et regarder les gravures de l'époque. Ça n'était pas drôle. Eh bien, il est arrivé là le 28 octobre 1846 et au printemps de 47, il était ordonné prêtre catholique. L'Institut de Saint-Philippe Néri, dont je vous ai parlé là, l'oratoire, lui est apparu tout à fait approprié aux besoins de l'Église d'Angleterre. Alors il est entré, il s'est initié, ainsi que quelques-uns de ses amis nouveaux convertis, à la vie oratorienne de Saint-Philippe Néri, sous la direction du père Rossi. Et dans ses derniers jours, c'est-à-dire de 1847, il quitte Rome avec ses compagnons, puis il débarque en Angleterre, précédé par des lettres apostoliques qui loue son dessein. Et il fonde à Birmingham, c'est à 175 kilomètres au nord-ouest de Londres, la première maison de l'oratoire à laquelle Faber veut aussitôt s'agréger. Ce fut pour toute la région un renouveau de vie catholique. Et Newman a exercé, lui-même par ses écrits, une action profonde sur toute l'Angleterre. Il a publié en 1848 « Loss and Gain », ou si vous voulez « Perte et profit », dirait-on. Ça excitait tout de suite une vive curiosité. Il y mettait en scène un jeune universitaire d'Oxford, un anglican d'origine, qui, après s'être longtemps débattu, se faisait catholique par besoin d'une autorité qui fixe la foi au milieu de tant de contradictions. C'est ça qui attire souvent les gens vers le catholicisme, c'est qu'il y a une unité. Même si on a toutes sortes de contradictions, on se dispute, bon, la cloche sonne, on va recevoir l'Eucharistie à la même messe. C'est pas nécessaire de construire 2-3 églises. Nous disputons, nous les catholiques. Bon, il y a des gens qui me disputent et me téléphonent et me traitent de tous les noms, m'injurient parce que j'ai dit quelque chose qui leur a déplu. Mon Dieu. Ouf. La cloche sonne et j'ai récommunié à la même table que, voyons. Faut apprendre à se respecter quand même. Ça fait mal, mais j'essaie de bien faire. Alors donc, lui, il n'avait pas besoin d'une religion parce qu'il voulait pratiquer de l'ascétisme et de la pénitence. Il était ascète. Sa prédication a été augmentée par sa foi catholique. Il est devenu encore un meilleur prédicateur. Il apportait dans sa prédication catholique la renommée qu'il avait autrefois acquise à Saint Mary d'Oxford. Partout où il parlait, soit dans la chapelle de l'oratoire à Birmingham, soit dans les églises diverses où il était appelé, c'était fantastique. On accourait pour l'entendre. Les protestants n'étaient pas les moins empressés, hein? Les anglicans non plus, évidemment. Car vous savez que souvent, nos amis protestants, nos frères anglicans, écoute avec beaucoup d'attention ce que le pape a à dire ou ce que nos grands prédicateurs ont à dire, un peu comme nous, catholiques, maintenant, nous écoutons les grands prédicateurs protestants. Et pourquoi pas? Benson, un jeune clergyman qui devait être archevêque de Canterbury, donc anglican, se trouvait assisté à un de ses sermons du carême de 1848. Il en est sorti avec cette impression qui était celle de presque tous les auditeurs. Il a parlé avec une éloquence d'ange. Une telle prédication, je n'en ai jamais entendu, et je n'espère pas en entendre jamais de ma vie de semblable. La publication de ces sermons catholiques a prolongé l'action de Newman sur tous les esprits éveillés de l'Angleterre, et un peu plus tard, ses lectures, ou si vous voulez, ses conférences, et ses sermons solennels, où il célèbre la Renaissance catholique en Angleterre, ont eu un retentissement des plus considérables. Cependant, il a eu à soutenir une lutte pénible contre les attardés du mouvement d'Oxford, en particulier Keble, et même Pusey, et Manning même, qui pouvait pas se déprendre de l'anglicanisme. Ils étaient tellement attachés à tout ce qu'il y a de beau et de grand dans l'anglicanisme. Manning, cependant, finit par suivre la voie intérieure qui l'attirait au catholicisme. Il a fait son abjuration le 6 avril 1851, dimanche de la Passion, entre les mains d'un père jésuite. Il faudrait que je vous parle du cardinal Manning un jour, car il est devenu cardinal, comme Newman qui est devenu cardinal aussi. Et cette conversion a réjoui Newman. Ça devait pourtant lui préparer plus tard bien des déboires, parce que jamais deux grandes âmes n'ont été plus différentes, hein, l'une de l'autre. Ils étaient David bien discordant, Manning et Newman, bien que tous les deux devenus catholiques. Que de problèmes nous avons catholiques. C'est pas facile s'entendre toujours. Mais de leur conflit, c'est Newman seul qui en a souffert. Et quelques mécomptes allaient le préparer, d'ailleurs. De 1851 à 58, toutes sortes de déboires l'attendaient. Des évêques irlandais, très catholiques, rêvaient de fonder une université catholique. Et avec l'agrément du pape, l'archevêque d'Armagh en Irlande, Mgr Cullen, a demandé à Newman d'en être le recteur. Et le prestige de ce grand savant de Oxford paraissait devoir aider au succès de l'entreprise. L'œuvre lui a souri, mais il trouvait des adversaires dans l'épiscopat irlandais. Et lui-même, après 6 années d'efforts, en 1857, a dû reconnaître l'impossibilité d'accomplir l'œuvre qu'il avait rêvée. Et il résigna ses fonctions. D'ailleurs, le père Edmond Robillard, dominicain, et père Maurice Labelle ont traduit l'idée d'université de John Henry Newman, publiée au Cercle du Livre de France, ici à Montréal. L'idée d'université, c'est le discours de 1852. C'est à lire, c'est un livre superbe. L'idée d'université de John Henry Newman, traduit par le père Edmond Robillard. Très bien traduit, d'ailleurs. Et alors, la nécessité d'approprier l'apologétique à toutes ces difficultés nouvelles, qui étaient issues des progrès de la critique et de la science, ça le hantait toujours. Alors, il s'est attaché à une revue catholique qui avait un grand succès dans le monde intellectuel. Ça s'appelle The Rambler. Il s'est transformé en Home and Foreign Review. Et The Rambler était l'organe des catholiques à tendance libérale. Et sans partager les idées avancées de ses rédacteurs, ben Newman estimait que la revue pouvait rendre un grand service à l'Église, mais Manning et Ward ont été scandalisés de cette attitude, ces nouveaux catholiques, Manning et Ward. Et à la suite d'un article publié par Newman en 1859 dans The Rambler sous le titre « De la consultation des fidèles dans les questions de doctrine », eh bien l'auteur s'est vu formellement dénoncé à Rome comme ayant soutenu une doctrine hérétique. Car il faut dire que au 19e siècle, si je vous lisais les textes, c'est terrible contre les laïcs. Hein. Des évêques irlandais disent des choses épouvantables. Il faut d'ailleurs lire un des meilleurs livres sur le cardinal Newman. C'est le livre d'un évêque, l'archevêque de Tours, Jean Honoré, « La fidélité d'une conscience ». Et Newman, « La fidélité d'une conscience », il m'avait donné, cet archevêque, ce merveilleux livre que j'ai lu avec empressement quelques jours plus tard, mais l'avait donné le 1er juillet 86 et je l'ai lu le 5. C'est un livre qu'il faut lire, hein, publié chez CLD. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux, à mon avis, pour comprendre, connaître Newman, de Jean Honoré, archevêque de Tours. Il m'avait invité à dîner plusieurs fois avec lui dans sa résidence, Monseigneur Honoré. Et alors, le cardinal Newman a vécu une vie difficile à certains moments, mais finalement, le pape l'a honoré du cardinalat. Et il est mort le 11 août 1890 à l'âge de 90 ans. Et des anglicans ont dit que Rome ou non le canonise, il sera canonisé dans la pensée des gens pieux des diverses confessions de l'Angleterre.